BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre pacte d'alliance avec le futur et c'est chaque jour jusqu'à 18h. Bienvenue à tous, BFM Bourse, tous nos experts mobilisés. Antoine Larigauderie est là, en fil rouge.
Mais
Rebonjour
oui.
Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
Oui. Qu'est-ce que je disais ? Chaleur, hein ? Oui, chaleur.
Oui,
calor. Chaleur écrasante sur l'ensemble des indices. Alors, particulièrement sur la tech, on a un Euronext Tech Leaders qui perd 2,2%. Correction musclée. Le Nasdaq, -1,46. Du côté des autres indices, on surperforme légèrement. Mais enfin bon, le CAC 40, quand même, -0,28%. 1455 points. L'Eurostock 50, on baisse d'un peu plus d'1%. Donc, on sent vraiment que la tendance est lourde, et notamment du côté de la tech. ST Micro signe la plus forte baisse du CAC 40, -7,13% à 58,84€. Réplique sans doute de l'onde de choc qu'il y a eu sur le marché coréen ce matin et sur les marchés chinois où effectivement on a une très forte correction de toutes les valeurs technologiques.
Une phase d'entre-deux hein, sur les marchés, très clairement. On va essayer d'analyser à nouveau Samsung qui a publié des résultats absolument fantastiques mais qui a reculé. Hein, et dans son sillage, l'un de ses fournisseurs, ASML, recule aussi de 7%. Nos experts du club, dans un instant, vont vous aider à analyser. Les fusions-acquisitions aussi qui, en Europe, se multiplient sur les small et mid-cap, décidément. Donc le retrait de la cote annoncé de Voyageurs du Monde après une OPA. Le titre, d'ailleurs, s'aligne quasiment sur le montant proposé dans cette OPA. Un titre en hausse de 22% en ce moment, Voyageurs du Monde. Et puis SpaceX, lui, fait ses premiers pas. Reculons sur le Nasdaq 100. Oui, c'est le premier jour de SpaceX sur le Nasdaq 100. Le titre recule quand même, alors qu'on pensait que pour ses premiers pas, justement, les fonds passifs allaient devoir acheter massivement du SpaceX. C'est peut-être le cas, mais ça ne suffit pas pour porter le titre. Ça, c'est intéressant. Plusieurs banques, en tout cas, ont commencé à suivre le titre avec des avis équivalents à acheter. Morgan Stanley, par exemple, fixe un objectif de cours de $300. $300, ça fait quand même un potentiel de hausse encore de 87% sur SpaceX. On va entrer dans le détail de toutes ces thématiques. Ce sont toutes les batailles de marché que vous fait vivre BFM Bourse. Et BFM Business est à l'affût de toute l'actu politique aussi, d'ailleurs. La réunion décisive en ce moment au siège du RN, Marine Le Pen, sera-t-elle candidate à l'élection présidentielle? En tout cas, la peine à laquelle elle a été condamnée en appel aujourd'hui dans le procès des assistant parlementaire du FN lui permet juridiquement de se prononcer, de se présenter à la présidentielle. Elle le peut, hein, d'un point de vue juridique. Voici sa peine, 45 mois d'inéligibilité, dont 30 mois avec sursis, une peine donc qu'elle a déjà effectuée en l'occurrence, ainsi que 3 ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique. Marine Le Pen se dit partiellement satisfaite et donc on attend toujours sa décision. Le budget et le gouvernement annoncent à nouveau des milliards d'économies pour, selon Bercy, garder le cap. 3 milliards de nouvelles coupes budgétaires pour l'État et la Sécu, en plus de 6 milliards déjà annoncé au mois d'avril dernier. Bercy qui révise une nouvelle fois sa prévision de croissance à la baisse pour cette année en France à 0,7% désormais. Enfin, le sommet de l'OTAN à Ankara et cette série de contrats annoncés dès aujourd'hui, notamment 40 milliards d'euros pour la lutte contre les drones ainsi que la création d'une flotte stratégique d'Airbus A400M. Emmanuel Macron est attendu ce soir sur place à Ankara au retour de Syrie. C'est le premier dirigeant occidental d'ailleurs à s'être rendu en Syrie depuis le changement de régime il y a quelques années, accompagné Emmanuel Macron des grands patrons de l'énergie et de la logistique notamment. Plus de détails sur ce voyage dans 19 tout à l'heure. D'ici là, c'est BFM Bourse. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Le club est ouvert et tout est en place. Ils sont là, nos experts. Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
Et François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Rebonsoir François.
Rebonsoir.
Ravi de vous accueillir l'un et l'autre. On a des marchés un peu entre deux eaux, là, on le sent, ce début de semestre. Jean-François, on a des marchés alors européens qui frôlent les records, qui en ont battu d'ailleurs ces derniers jours. Le Stoxx Europe 600 a battu des records, d'autres indices aussi. Le CAC est presque aussi à son record, mais c'est mou. Puis à Wall Street, seul le Dow Jones fait mieux que les autres indices, sinon c'est assez disparate. On sent qu'on cherche une direction, qu'on n'a pas trop de conviction. Là. Comment vous sentez l'état d'esprit, le potentiel pour ce deuxième semestre?
Quand même, il y a quelque chose qui est assez marquant de ces dernières jours, semaines, c'est cette espèce de grande rotation. Hein, parce que là, quand on regarde typiquement le S&P ou le Dow Jones sur le S&P, voilà, c'est désormais les 493 qui font le marché et les 7 qui souffrent. Hein. On a une sous-performance très notable de la tech dans les indices. Et ce qui pesait un peu en relative value sur l'indice français, sur le CAC, c'est exactement ce qu'il soutient aujourd'hui. C'est d'être un petit peu moins pondéré de tech et on voit en fait le retour des valeurs hors tech. Tout ça explique effectivement, s'explique assez facilement par cet grand questionnement et on voit Samsung, vous le disiez tout à l'heure, qui fait 1800% de hausse de ses bénéfices et qui baisse en bourse. Donc c'est vraiment un questionnement sur les valorisations avec toujours, on en a parlé souvent, hein, c'est-à-dire vous avez des valorisations qui ne cessent de grimper à la faveur de résultats assez astronomiques et évidemment on a des boîtes qui gagnent de l'argent. Grosse différence avec la bulle des années 2000. Simplement, c'est que c'est des résultats, un, qui sont exceptionnels, et est-ce qu'ils peuvent durer indéfiniment, première chose. Deuxièmement, est-ce que ces résultats exceptionnels sont basés sur des réalités ou sur des profits futurs discountés qui font que on est un peu dans du consanguinité, dans du circulaire. Et donc c'est un peu tout ça qu'on questionne aujourd'hui. Vous parliez de SpaceX,
on va en parler tout à l'heure. Le titre recule pour son premier jour en Nasdaq 100.
Voilà, on avait tous dit que ça n'allait pas arrêter de monter. Finalement, ça est emporté par cette vague de doute ou en tout cas de consolidation sur la tech.
Oui, le Nasdaq recule d'1,4% aujourd'hui. Samsung a décroché ce matin malgré des trimestriels assez dingues. François, bénéfice d'exploitation record multiplié par 19. Samsung a décroché et ses fournisseurs décrochent. En Europe, ASML cet après-midi recule à la bourse d'Amsterdam, moins 7%. Là, l'étincelle négative vient de Corée. Jusqu'ici, on voyait effectivement les 7 magnifiques ne plus produire grand-chose en bourse parce que la Corée, elle, a tiré les flux. Là, on voit que c'est de Corée qu'on voit des signes de craquement à nouveau. Enfin, même là-bas, même en Corée désormais. Qu'est-ce que ça dit, ça ?
Ça dit que le marché, en fait, cherche une nouvelle histoire du carburant. Oui. On a vécu quand même pendant plusieurs mois sur la perspective d'une sortie de guerre et un retour à la normale des cours du pétrole. Ça a déjà été très très bien joué par les investisseurs et on a eu des marchés qui ont progressé pendant le conflit. Et durant ce conflit, on a eu sans cesse des révisions à la hausse des croissances bénéficiaires des entreprises. Quand on regarde le S&P 500, au début de l'année, on estimait le consensus était plutôt sur une croissance de 15% du bénéfice net par action du S&P 500. Là, aujourd'hui, on est à 25%. Donc maintenant, il va falloir tenir ces fameux 25%. Et donc la barre, elle est haute. Est-ce qu'on va pouvoir faire largement mieux ? C'est compliqué. On le voit, par exemple, avec Samsung, même si les résultats sont très impressionnants. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que c'est durable? Est-ce qu'ils vont pouvoir le dupliquer? Donc voilà, on est dans une phase un peu de doute.
Les marges d'EBITDA.
On recherche de nouvelles histoires.
Les marges d'EBITDA de Samsung dépassent de loin celles d'NVIDIA. Celles d'NVIDIA sont 60%, celles de Samsung 80%.
Mais historiquement, on sait que les prix des puces mémoire sont beaucoup plus volatiles que les puces de puissance. Donc, Mais globalement, on a la recherche d'une nouvelle histoire. Et la nouvelle histoire, elle n'est pas encore tout à fait écrite. Parce que d'abord, on voit qu'il y a un durcissement des banquiers centraux, en tout cas de la Fed. Est-ce qu'il y aura hausse de taux à partir de septembre ou pas? Donc il y a un petit peu de suspense, d'autant qu'on a quand même des cours du pétrole qui refluent. Donc est-ce que l'inflation, elle va rester élevée longtemps, etc. Donc on cherche un peu nos marques. On va avoir une avalanche de publications des résultats d'entreprise dans quelques jours. Donc là, il va y avoir aussi un peu de volatilité. Donc finalement, se dire on prend quelques bénéfices maintenant, alors que les marchés ont formidablement monté et que les nouvelles histoires, parce qu'il faut nourrir la bête, il faut nourrir le marché. On a quand même eu un report, ça c'est quand même un signal qui est plutôt négatif sur la tech, c'est un report d'une introduction d'OpenAI qui devait être enchaînée tout de suite derrière Anthropic. Donc on devait avoir 3 méga introductions aux États-Unis, SpaceX, plus des dizaines de milliards, plus de 80 milliards levés. On devait avoir Anthropic, ça c'est quasiment sûr, ça va être aussi des dizaines de milliards levés, mais on n'a pas OpenAI. Donc on n'a pas le strike, on n'a pas les trois valeurs qui vont aboutir et qui vont encore nourrir les investissements dans le domaine de l'IA. Donc il nous en manque un. Donc finalement, on se dit, c'est très bien, mais ça aurait pu être mieux. Et donc finalement, on prend quelques bénéfices. Pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant, mais il faut trouver un nouveau scénario, un nouveau paradigme.
Amazon, d'après Bloomberg, chercherait à son tour à lever 25 milliards de dollars supplémentaires via des obligations. 25 milliards de plus, c'est ce que chercherait Amazon sur le marché obligataire. Le titre Amazon est stable dans un marché en baisse. Donc là, pour le coup, cette info-là, le marché ne la sanctionne pas.
La sanctionne pas, et pourtant, ça correspond précisément la petite alerte lancée par la BRI, qui a fait un excellent rapport sur la valorisation de la tech en disant... On n'a aucun doute sur le fait que c'est une révolution technologique. En revanche, tout le monde ne sera pas gagnant là-dedans. Et il y a peut-être du surinvestissement et on n'arrivera pas forcément à tout monétiser. Et typiquement, il cite le fait qu'il y a un certain nombre de boîtes de la tech qui se mettent à lever de la dette juste après. Et alors, on parlait justement des introductions de bourse. On lève 86 milliards. La semaine d'après, on vient lever de la dette, quoi. Et donc, il y a quand même une espèce de leverage qui est en train de se mettre en place, de boîtes qui sont en train de s'endetter assez classiquement. On passe du narratif de boîtes très peu endettées avec beaucoup de free cash flow, des marges bénéficiaires incroyables, à des boîtes qui finalement, on voit les marges quand même baisser globalement. Et surtout, finalement, du capex qui se maintient. Et en revanche, du levier qui, lui, commence à augmenter avec de la dette. Et donc, on passe par des boîtes un peu exceptionnelles à des boîtes un peu plus classiques. Et vous le disiez très justement, dans un environnement qui est peut-être un environnement finalement haussier de taux, on perd un peu ça. Et puis, j'ajoute que ce qui a été marrant, c'est que dans tout l'épisode Iran, entre guillemets, on avait ce narratif comme quoi les valeurs de la tech, c'était l'IA plus fort que la guerre. Donc, c'est ça qu'on disait, que finalement, le narratif l'emportait sur la guerre et que c'était peut-être même des valeurs refuge et que finalement, valait mieux acheter du Microsoft ou des Nvidia que de l'État américain. C'était peut-être plus sûr. Parce parce qu'au moins on avait une visibilité, alors que l'État américain s'endettait, le déficit courait à plus de 7,5%, etc. Là, ce qu'on voit bien avec la fin de la guerre, c'est peut-être cette espèce d'inversion de paradigme qui était sans doute un peu excessif de penser que la tech était immunisée contre tout ça. La tech, ça reste quand même de plus en plus, on le voit, ça devient en tout cas de plus en plus aussi une affaire de capex, de leverage, de dette, en plus de bilan qui gonfle. Donc voilà, on change un petit peu d'univers quand même.
Oui, un mot de SpaceX donc aussi, qui intègre le Nasdaq 100. Ça y est, c'est fait à peine 26 jours après son introduction en bourse, quand même délai record d'introduction dans un indice américain. On se disait, les fonds passifs, il y en a plus de 200 sur le Nasdaq 100 qui vont intégrer SpaceX, vont devoir acheter la valeur, ça va la porter naturellement. Mais que nenni, SpaceX, pour cette première séance au Nasdaq, perd 5,5%. Comment vous l'expliquez, ça? Il y a plus de vendeurs, malgré les flux acheteurs des fonds.
Alors oui, il y a plus
ETF,
de vendeurs que d'acheteurs, je pense qu'on peut le dire, Guillaume.
On va le préciser, il y a encore plus de vendeurs que d'acheteurs aujourd'hui.
Non, effectivement, là aussi, ça c'est quand même un petit peu le parangon de l'histoire de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que est-ce que SpaceX rentrera pas dans les livres d'histoire comme une espèce quand même de symbole peut-être d'un certain nombre d'excès. Enfin, je veux pas me prononcer sur quelque chose qui, moi, je suis un petit peu en débat avec mes analyses là-dessus, mais quand même SpaceX, l'histoire qu'on vous vend, c'est qu'on va envoyer 1 million de personnes sur Mars, qu'on va faire des data centers dans l'orbite et que ce serait moins cher de faire des data centers en orbite que d'aller mettre du panneau solaire dans le Texas. Bon, faut quand même acheter l'histoire, quoi. C'est pas si évident que ça, que ça doit valoir autant que c'est valorisé aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut rester aussi comme une espèce de symbole de tiens, on a réussi à vendre une histoire quand même qui n'engage que ceux qui la croient, quoi.
Il y en a qui y croient encore, c'est les grandes banques américaines, hein, avec des objectifs de cours, des recommandations sur SpaceX, ça y est, qui commencent à arriver et qui sont énormes.
Antoine. Une dizaine, il y a même, je sais plus de mémoire, Morgan Stanley qui prévoit un double du cours actuel.
Oui.
Après, il y a des effets techniques. À partir du moment où c'est tellement gros, c'est un petit peu autoréalisateur. Oui. C'est-à-dire vous le disiez, il y a des investisseurs passifs qui vont devoir prendre.
C'est la mécanique.
C'est un petit peu toute la question. Hein. Je ne veux pas revenir sur le match à États-Unis-Belgique, mais pourquoi on va changer les règles tout d'un coup pour que ça rentre dans les indices et que tout d'un coup, on revienne en jeu des choses qui n'auraient pas dû avoir forcément lieu dans cette dynamique-là. Ça va beaucoup plus vite, SpaceX. Bon, aujourd'hui, on peut questionner quand même l'investissement passif. On porte pas la prudence qui est en ce moment sur la tech. Moi, je trouve que c'est assez sain, finalement.
François, SpaceX avance à reculons aujourd'hui pour sa première séance au Nasdaq. Le titre perd 6% contre toute attente, ou pas contre toute attente. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de vendeurs aujourd'hui sur SpaceX.
On a quand même un cours de bourse, je crois, au-dessus du cours d'introduction.
Oui, donc, mais 30% sous le record. Donc,
Oui, mais il faut voir que d'abord, ça a été introduit à des multiples de valorisation incroyables. Hein. On était à 100 fois le chiffre d'affaires pour une société qui perd de l'argent. Donc, se dire qu'il y a beaucoup de marge de potentiel au niveau valorisation, est-ce qu'on va accepter de la payer 150 fois son chiffre d'affaires ou 200 fois? Là, on parle, ça devient pas du tout raisonnable.
C'est quand même une boîte qui est impressionnante. Hein. Ça perd 9 milliards l'année dernière. En année glissante, là, le dernier résultat, ça en perd 25 milliards. Et vous le dites, les valorisations sont... On achète une histoire.
Sont stratosphériques. Donc déjà, c'est déjà formidable de garder ce niveau de capitalisation, ce poids boursier et un cours de bourse qui est au-dessus de son cours d'introduction. Parfois, on a à la Bourse de Paris, on a des plus petites sociétés dont le cours d'introduction, on n'arrive pas à le retrouver quelques jours après, voire quelques semaines après. Donc là, on a quand même sur un titre qui tient. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, maintenant, pour aller plus haut, il faut qu'il arrive à démontrer qu'il crée de la valeur. Donc il y a le discours, le narratif, maintenant tout le monde le connaît. On a les satellites qui peuvent financer les lancements de fusées et qui peut aller nous financer une partie de la conquête spatiale, même s'il faut lever de la dette en plus de lever du capital. Donc ça consomme, ça mange beaucoup de capital. À un moment donné, il va falloir montrer que ça génère aussi des capitaux, un flux de trésorerie positif. Donc c'est ça l'histoire. Et la deuxième histoire, c'est est-ce qu'il va réussir à faire ses robots Optimus chez Tesla pour après fusionner Tesla avec SpaceX pour vraiment asseoir et devenir la première capitalisation mondiale, ce qui est le scénario le plus probable. Mais pour ça, il faut, pour justifier cette fusion, il faut que derrière, il y ait des robots humanoïdes, les Optimus chez Tesla, pour dire il y a un intérêt à, parce que dans l'espace, peut-être que dans un premier temps, on ne va pas envoyer des hommes sur Mars, mais peut-être des robots, ça me paraît plus sage. Sauf si vous, Guillaume, vous avez envie de partir un an là-bas,
je sais pas,
et pas sûr de pouvoir revenir.
Voyageur du monde va peut-être proposer.
Peut-être voyageur.
C'est des one-way tickets pour l'instant. Hein.
Oui. Il y a quand même du risque. Hein. Donc peut-être que c'est plus sage de mettre des robots, et là, ça aurait du sens de fusionner tout ça. Donc il a encore des cartouches pour faire rêver durablement les investisseurs. Il a un fan club, notamment aux États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, on a besoin de voir un peu quand même une croissance bénéficiaire.
Oui, alors l'IA, c'est aussi, on va parler des autres thématiques bien sûr dans un instant, c'est aussi très gourmand en ressources énergétiques. Et en électricité, Antoine, il se trouve que on se demande justement, sur le pétrole, est-ce qu'on aura demain assez de pétrole pour nos besoins? Maintenant, on commence peut-être à avoir la réponse avec la réouverture d'Hormuz. On se dit, ah non, peut-être qu'il y aura même trop de pétrole. Va-t-on vers une surabondance de pétrole? Cette question, on peut se la poser aussi sur l'électricité, parce que on a la construction, la mise en place, le développement de nouveaux parcs de production d'électricité un peu partout, et dans certains pays, on commence à se demander si on ne va pas vers une surabondance d'électricité désormais, Antoine.
Si on regarde ce qui se passe en Australie, c'est assez amusant. Bon, faut pas oublier qu'il y a 80% de la surface du pays qui est un désert où il fait thermostat 12, et où on a effectivement eu le mérite d'installer le plus de fermes solaires possibles. Mais on produit tellement d'électricité photovoltaïque en Australie que chaque citoyen en moyenne a 3 heures d'électricité gratuite par jour. Ça donne une...
Non, c'est le cas en Suède aussi. Hein. Ah oui, ils sont en train de basculer justement pour que les industriels produisent aux heures pleines.
Absolument.
Mais vous savez, aujourd'hui, je regardais juste avant de venir parce que ça m'intéresse ce sujet. Le prix de l'électricité en France aujourd'hui, c'est zéro.
Oui, il y a zéro.
Le prix de l'électricité en Allemagne aujourd'hui, c'est zéro. Le prix de l'électricité aujourd'hui en Italie, c'est 130 euros le mégawatt. Mmh. Donc il y a quand même une espèce de truc sur les renouvelables font de l'énergie pas cher, quoi. Donc la compétitivité prix d'un pays, elle va dépendre énormément de ça. Donc aujourd'hui, si vous devez mettre un data center, pourquoi SoftBank vient en France? C'est parce que vous avez de l'électricité abondante et pas chère. Et pour être pas cher, faut être renouvelable. Pour être abondant, faut être un peu nucléaire.
Tu peux plutôt le mettre en Australie, ton data center. Il aura tu en orbite dans l'espace, ça va être un peu plus compliqué.
Même dans le Sahara. Hein, 2% du Sahara vous pouvez mettre en panneau solaire autant pour l'électricité, la consommation électricité du monde.
Le problème des renouvelables, c'est que l'énergie n'est pas forcément récurrente, régulière, donc il faut avoir un plan B pour pouvoir, ou une centrale.
Alors c'est l'appel d'offres de cet après-midi du gouvernement français qui enfin est passé à l'électricité et le solaire. Si vous mettez l'électricité et le solaire, le problème est résolu. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Australie. Hein. C'est les leaders mondiaux sur le stockage par batterie de l'électricité solaire.
Il faut des batteries, et qui
sort là sur l'appel d'offres. On sort sur les trucs à 80 euros mégawatt. Donc solaire plus batterie, on est déjà en train de passer sous le nouveau nucléaire. Hein.
Oui, mais tout ça, c'est une excellente nouvelle pour la réindustrialisation européenne. Peut-être parce que les prix de l'électricité américains, au contraire, sont super élevés, du fait de la demande très forte liée à l'IA, notamment.
Mais surtout qu'ils font ça avec des centrales à gaz, et voilà. C'est pas en train d'être le moins cher.
Donc, on peut imaginer une réindustrialisation européenne avec ces prix à zéro.
On aime bien l'idée, mais en tout cas, c'est sûr que si le monde de demain est IA data center, il est forcément électrique. Et aujourd'hui, pour produire de l'électricité, ou en tout cas dans les technologies qui sont connues aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas moins cher que le renouvelable, que le solaire. Le solaire, c'est ça qui va l'aborder. Donc, les pays dans lesquels on peut penser que on devrait installer des data centers sont ceux où il y aura le plus d'électricité renouvelable, quelque part. Et encore une fois, qu'il soit 24/24 disponible. Donc, il faut penser à ça. Aujourd'hui, ce qui est le cas, c'est que c'est typiquement la France. Hein. On a un coup à jouer là-dedans. Et encore une fois, pourquoi SoftBank choisit la France pour mettre 75 milliards d'investissements dans les data centers? Ça, c'est quand même un truc que...
Oui, mais il y en a d'autres qui choisissent d'autres pays aussi.
Bien sûr. Non, mais aujourd'hui, il y a énormément de data centers.
Aujourd'hui, on est à zéro, mais demain, on sera peut-être pas à zéro. Voilà, il y a une volatilité du prix qui est quand même assez importante.
Mais c'est vrai que nous, on peut se targuer au moins de ça, d'avoir une électricité pilotable, pas chère. Et pour l'instant, c'est ça qui est gagnant.
En Allemagne, la production industrielle reprend. Hein, au mois de mai, confirmation de la reprise de cette industrie allemande, les carnets de commandes mieux orientés. Vous sentez, François, que pour nos marchés européens, là, pour la suite, l'Allemagne, qui a été un peu décevante ces derniers trimestres, ces derniers mois, pourrait redevenir une source d'espoir?
Là où on a été tous déçus avec l'Allemagne, c'est que le plan de relance, il a mis beaucoup de temps à infuser, à lâcher. On voit que les Allemands, ils n'aiment pas dépenser. Hein. Et on l'a encore très bien vu avec leur méga plan de relance. Ils comptent leurs sous, ils prennent du temps, mais à un moment donné, on sait que l'Allemagne, une fois que c'est lancé. Et c'est carré. Simplement, le temps, c'est aussi de l'argent en bourse, et on voit que le DAX a fait un très mauvais premier semestre par rapport aux autres indices. Il y a un retard qui s'est accumulé, compte tenu des nombreux déboires. Hein. L'industrie automobile allemande, elle est en difficulté par rapport à la concurrence asiatique et chinoise avec l'électrique. Il manque quand même des sources d'énergie avec la Russie, donc ils ont beaucoup de défis à relever, mais ils ont les moyens financiers. Donc à un moment donné, oui, ça devrait marcher, même si on ne voit pas non plus... en tout cas, politiquement, ils ne sont pas à l'aise pour savoir si est-ce qu'ils vont à rejoindre le camp des sceptiques vis-à-vis de la Chine en Europe, ou s'ils vont continuer à faire les yeux doux aux Chinois. En fait, ils n'ont pas encore vraiment tranché leur politique de développement et de commerce avec la Chine. Donc, il y a quand même encore un peu de suspense. Mais le plan de relance, oui, il va infuser, oui. Et on va avoir peut-être des débats encore à nouveau sur l'OTAN, etc. Donc, ce besoin d'avoir une armée plus efficace, plus moderne, ce besoin de développer de nouvelles infrastructures en Allemagne, en tout cas, il est criant. Maintenant, ils ont des budgets, mais il faut appuyer sur le bouton.
En Europe et dans le cadre de l'OTAN, 40 milliards d'euros de contrats annoncés dès la première journée de la réunion du sommet de l'OTAN qui doit durer jusqu'à demain, en 40 milliards d'euros de contrats. Thématique défense, donc on espère voir se réveiller quand même.
Bah oui, puis ça avec des gros. Bah regardez la commande qui vient de passer le Canada. On a choisi l'Allemagne pour ses 12 sous-marins avec une accélération de l'histoire puisqu'ils doivent les livrer très très vite. Et aujourd'hui, vous parliez justement du plan de relance allemand. Ça y est, on a eu un peu des éléments qui tombent parce qu'en fait, ils mettent du temps. Je suis complètement d'accord. Ils mettent du temps à l'implémenter, mais ça y est, là, on commence à avoir des chiffres. Juste pour donner quelques petits chiffres sur le plan allemand, c'est 109 milliards en 2027 le budget militaire allemand. C'est 55 milliards sur les infrastructures. C'est 180 milliards de dépenses militaires d'ici 2030. Donc, ils vont avoir 6 ans d'avance, ils vont atteindre les 3,5% de dépenses de défense. Ils vont dépenser 600 milliards sur la défense et non pas 500 milliards. Donc, ils sont quand même en train de passer la seconde avec des énormes, ThyssenKrupp, on en parlait sur les sous-marins, mais ils ont KNDS, etc. C'est des valeurs qui, de façon assez intéressante, hein, quand SpaceX a des valorisations stratosphériques, on a des valeurs de défense qui sont 25% en dessous du début de l'Iran, alors qu'on a une accélération phénoménale des dépenses pour le coup de défense.
Et KNDS qui annonce un report de son introduction en bourse quelques jours à peine après l'avoir annoncé, c'est en invoquant les conditions de marché. Non, c'est juste une question
de... Oui, moi je pense, je sais pas...
Ils ont bon dos les conditions de marché. Là.
Mais c'est vrai que, regardez OpenAI, ils y vont pas non plus, donc ça doit être assez fragile quand même là-dedans. Mais...
D'accord. Non, puis c'est vrai que la valeur de défense, on fait un mauvais début d'année. Qu'on voit Rheinmetall qui
vaut mieux rouge. Vaut mieux s'introduire quand c'est au plus bas que quand c'est au plus haut. Enfin, ça laisse plus.
Il faut s'introduire aussi quand il y a de l'appétit pour votre secteur.
Oui, puis ça lui cherche quand même du cash, quoi. Donc si c'est un peu mieux valorisé, c'est pas plus mal, quoi.
Ouais. Bon, on poursuit nos échanges, messieurs. Il reste 12 minutes jusqu'à la clôture. Le CAC 40 recule toujours. Moins 0,3% ce soir. ST Microelectronics perd quasiment 8%. Lanterne rouge, c'est le segment tech, qui souffre dans le sillage de Samsung. Donc, on est toujours sur une phase de dégagement sur plein de valeurs. ASML qui fournit justement, Samsung recule aussi de 7,4%. Et puis, plusieurs sources nous indiquent que DeepSeek serait en train de produire sa propre puce, figurez-vous. Comment réagit Nvidia ? Moins 1,5%. Mais la concurrence chinoise, on va en parler, toujours avec François Monnier et Jean-François Robin. D'autres sources nous indiquent, messieurs, que le président chinois, les autorités chinoises en tout cas, ont réuni les dirigeants de la tech chinoise pour leur demander quoi ? Eh bien, de ne pas laisser accessible aux étrangers leurs meilleures IA. Un peu comme Donald Trump qui a demandé à Anthropic de ne pas laisser accessible aux étrangers ses meilleurs IA. Alors on se met d'un point de vue, notre point de vue à nous, tiens, européen. On n'aurait ni accès aux meilleures IA chinoises, ni accès aux meilleures IA américaines.
Alors, Mistral qui va être content.
Voilà. Il nous resterait Mistral.
Non, mais moi je pense qu'il y a une guerre de la com là-dedans. C'est que les Chinois sont en train de montrer qu'ils sont les égaux. Enfin, cherchent à montrer que c'est les égaux des États-Unis. Trump veut pas exporter ses puces et ses modèles d'IA les plus performants. Et ben nous c'est pareil finalement. C'est une façon de faire penser que les Chinois sont les leaders de ce nouveau monde. Moi, je pense qu'il faudrait absolument demander à Mistral de plus exporter Vibes et de le garder pour nous, parce qu'on est dans une espèce de guerre de l'information, là, je pense, plus qu'autre chose.
Mm-hmm. Oui, il y a de la communication, mais ça montre aussi quand même qu'on a une dépendance numérique qui est monstrueuse. On sait qu'on est dépendant industriellement, numériquement, on est dépendant aussi militairement. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Et Mistral a des atouts, mais le temps joue contre lui. Il devient de plus en plus petit par rapport aux autres qui investissent 10 fois, 50 fois, 100 fois plus que lui. Donc, au départ, l'initiative était intéressante, sympathique, faisait rêver. Et plus le temps passe, plus Mistral décroche par rapport aux autres. Donc, à un moment donné, il faut ou lever de l'argent ou trouver un partenariat. Alors, eux, ils se focalisent sur les entreprises. Donc, ils se disent pas, on va s'intéresser au grand public. Mais ce qu'on voit, c'est que... Alors, peut-être que les Américains développent et gaspillent de l'argent, mais les sommes en jeu mises en place par les concurrents font que là, on a affaire plutôt à une société de taille modeste qui a des ambitions modestes alors que le besoin européen et le besoin français vis-à-vis de l'IA est gigantesque.
Alors après, je trouve que quand même le côté dépense par rapport à efficacité, c'est le modèle chinois n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur.
Mais on a peu de visibilité sur vraiment les dépenses et les
après,
performances.
Mistral surfe sur une vague qui me semble intéressante, c'est celle maintenant de la grande thématique de la souveraineté. J'étais récemment au Parlement européen, ils sont en train de passer sur Mistral. La Commission européenne, y passe sur Mistral. Stellantis sur Mistral. Airbus sur Mistral. Les armées sur Mistral. Donc il y a aussi une dynamique, peut-être moins forte.
On l'a vu aussi avec OVH. OVH, spécialiste du cloud. On se disait, on a besoin d'un cloud européen, etc. Mais in fine, on voit que les trois grands sont toujours les mêmes. Ce sont les trois grands américains. C'est Amazon, c'est Google, c'est Microsoft et point final. Donc il y a des miettes. Et les miettes, c'est souvent pour les Européens. Donc à un moment donné, on a le besoin, on a l'envie, on a les acteurs qui peuvent militer, mais on a du mal à passer la seconde.
Dans quelques jours, les publications vont démarrer. Voilà, on va entrer dans une nouvelle phase de marché. La semaine prochaine, en France, une première publication. Et aux États-Unis aussi, les banques américaines vont ouvrir le bal. Ici en Europe, on va revenir ici en Europe. François, est-ce que vous la sentez bien cette saison de publication pour nourrir la hausse des marchés européens?
Ce qu'on voit, c'est que, on l'a vu aux États-Unis, on le voit aussi en Europe, on a eu sans cesse des révisions à la hausse des attentes de la part des analystes sur la croissance bénéficiaire tout au long de l'année, tout au long du premier semestre. Donc les attentes, aujourd'hui, elles sont plutôt élevées. Donc, est-ce que les entreprises vont être capables de faire aussi bien? C'est pas sûr. Il y aura probablement des fortes réactions, notamment à la baisse, sur certains titres où les attentes sont vraiment très élevées. Quand on voit Samsung, ce qu'ils ont été capables de faire et les prises de bénéfices, alors certes, le titre s'était emballé, etc., mais on voit qu'on a vraiment acheté la promesse. Il va falloir maintenant délivrer et assurer, voire. Et c'est surtout ça qu'attendent les investisseurs aujourd'hui avec le niveau d'attente des révisions à la hausse. Et peut-être qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui vont encore hésiter à revoir à la hausse leur prévision de bénéfices fin juillet parce que l'inflation, on ne sait pas si elle va être maîtrisée. Donc il y a encore beaucoup de suspense sur le pouvoir d'achat des ménages, etc. Donc tout n'est pas, la visibilité, elle n'est pas excellente, même si c'est mieux, parce qu'on a une perspective de guerre, en tout cas de paix au Moyen-Orient. Donc, mais bon, Trump. Et Trump. Mmh. Donc il a fait beaucoup de parler de lui. Est-ce qu'il va nous reparler de Cuba, le Groenland, etc.
Oui, plein de surprises encore.
De guerre. Même si maintenant la guerre d'échange et la guerre tarifaire, ça fait un peu moins peur aux investisseurs à force d'en avoir parlé beaucoup.
Ça semble
totalement
un peu
immunisé.
Ouais. Quel secteur vous privilégierez, il faudra privilégier au deuxième semestre d'après vous?
Nous, on aime
les valeurs, vous pouvez même parler de valeurs.
Nous, on aime bien les secteurs, par exemple, là, qui sont, dépendent pas du cycle économique, par exemple, la santé. La santé, c'est vraiment typiquement le secteur qui a souffert, qui souffre quasiment depuis la sortie du Covid. C'était vraiment le secteur phare en 2020. Puis après, il y avait eu trop de commandes, longue traversée du désert. Et là, maintenant, on a des niveaux de valorisation qui se sont effondrés. On a sur des multiples de valorisation sur l'ensemble des valeurs du secteur de la santé qui ont confondu de près de 40%. Alors, certes, c'était peut-être trop cher. Mais à un moment donné, on passe tout souvent d'un excès à l'autre. Et là, c'est probablement survendu. Donc, il faut avoir des secteurs comme la santé en portefeuille. Il faut avoir, je pense, un peu de valeur bancaire, des financières en portefeuille où les niveaux de valorisation ne sont pas excessifs. Il y a des dividendes qui sont généreux. Les sociétés devraient être capables d'annoncer des croissances bénéficiaires assez sympathiques. Donc, cette approche value, il ne faut pas la rejeter, même si on est focalisé sur la croissance, les semi-conducteurs, l'électrification, vous en avez parlé, et c'est vrai que les besoins sont considérables. Et puis, on peut regarder aussi le côté, le troisième pilier de la croissance, ce sont les valeurs liées à l'aéronautique. Elles ont souffert pendant la guerre, mais là, on voit qu'il y a de l'appétit, il y a du carnet de commandes, il y a du pricing power encore dans ce domaine-là. Donc oui, on peut y aller. Et donc, il faut essayer d'avoir un portefeuille diversifié. Mais la santé me semble être... Et peut-être que ce sera un des grands acteurs, des grands secteurs gagnants de l'IA, avec toujours cette volonté de dire, on va peut-être
voir... Ça fait un moment qu'on en parle, mais à un moment donné...
Il y a du mal. En tout cas, les premiers débouchés, on les voit plutôt là.
Mm-hmm. Jean-François?
Moi, ce que je trouve intéressant dans ces publications, alors à mon avis, elles vont être bonnes. Ouais. Simplement, c'est peut-être un peu le monde d'avant, c'est-à-dire le monde d'avant au sens de l'Iran, c'est-à-dire qu'on va avoir des phénomènes de surprofit des secteurs énergétiques. On va avoir un peu des secteurs des valeurs de par exemple du retail qui va peut-être un petit peu plus être en retard. Mais simplement, c'est que là, du coup, je trouve pas que c'est forcément une très forte valeur d'analyse sur ce qui va arriver, puisque évidemment, ces résultats parlent de quelque chose qui est terminé, c'est-à-dire un monde de guerre. inflationniste, de remontée des taux, etc. Où là, finalement, on bascule dans un monde où la guerre se termine, où l'inflation rebaisse fortement. Donc, ça devrait porter les valeurs un peu plus cycliques, probablement. Et puis, peut-être que cette rebaisse des taux va peut-être se retrouver. Moi, je suis assez d'accord sur les financières, même si je ne veux pas être jugé parti. Je pense que c'est les secteurs qui sont pas chers. La santé, je partage, mais on le disait tout à l'heure. Moi, pour moi, il y a une thématique. Il suffit de voir ce qui se passe à les annonces de l'OTAN où l'Europe est maintenant seule et doit s'armer à très, 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 très forte accélération de ses dépenses de défense. Bah, évidemment, quand vous avez des valeurs qui sont moins élevées qu'avant la guerre, ça me semble délirant, quoi.
Oui, mais ça s'appelle le marché.
Et ça s'appelle le marché. Non, mais moi, je serais tendance à arbitrer entre SpaceX et KNDS, mais bon, qui suis-je pour juger?
Préféreriez KNDS, clairement.
Oui.
Un dernier mot sur la vague de fusion-acquisition qu'on voit, notamment dans l'univers des small et mid cap. Quand même, Voyageurs du Monde va quitter la cote dans quelques semaines, sans doute d'ici la fin de l'année, François. Après une OPA, le titre gagne 21%, ça aligne quasiment sur le cours proposé. On a aussi, alors déjà, Voyageurs du Monde, peut-être que vous avez un avis là-dessus sur l'opération.
Ce qu'on voit, d'abord, c'est, il y a toujours un désintérêt des investisseurs pour les sociétés de taille modeste. Il y a toujours une prime à la liquidité. Les gérants veulent pouvoir acheter, vendre rapidement sur n'importe quel titre. Donc, il y a un vrai problème de valorisation sur les sociétés de taille modeste. Alors, il y a un moment donné, on estimait que cette sous-valorisation elle était normale parce que le private equity, ça cartonnait. Sauf que le private equity, aujourd'hui, est en difficulté. Les taux restent élevés, ils ont du mal à déboucler leurs opérations, etc. Donc, globalement, partout dans le monde, que ce soit en private equity ou dans les sociétés cotées de taille modeste, il y a une sorte de désintérêt. Et donc, on peut comprendre que la société, si elle n'est pas contente de sa valorisation, elle sort de la bourse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on voit quand même le retour des opérations, des fusions-acquisitions. On a vu Schneider Electric qui a fait une grosse opération à 3 milliards. Bref, ça se multiplie. Et donc là, on a des sociétés qui recherchent de la croissance. On est dans un environnement où la croissance, elle a quand même un petit peu ralenti. Il faut quand même absorber cette guerre, ce choc inflationniste, alors qui est peut-être éphémère, mais qui a quand même coûté de l'argent. Donc là, on a quand même, et c'est ça qui est positif, c'est que les chefs d'entreprise sont plutôt confiants, puisqu'ils sont prêts à utiliser leur cash pour partir en quête et à la conquête de nouveaux marchés et de la croissance. Et on voit des opérations d'acquisition de M&A qui se multiplient un petit peu partout. Ça, c'est plutôt bon signe, même si, on le sait, la fin d'un cycle haussier, ça se termine toujours par des méga-acquisitions, des méga-deals. Donc, il faut être prudent. Mais en tout cas, c'est agréable de revoir qu'il y a des opérations de croissance externe où les entreprises utilisent leur cash plutôt que de racheter leurs actions, même si les investisseurs aiment bien les rachats d'actions. On est sur un marché en conquête.
Ils rachètent les small et mid-cap les plus attractives. Ça veut dire qu'il restera que les moins attractives en bourse, à la fin?
Bah, et après, ça pourra peut-être revenir en bourse. Vous savez, il y a des sociétés qui sortent, qui reviennent. On a une introduction en bourse du slip français. Donc voilà, c'est la cote qui vit. Mais c'est vrai qu'on a tendance à voir plutôt des très gros dossiers arriver en bourse que plutôt des petits.
Jean-François, à la fin, il restera que les moins prometteurs ou pas?
Bah non, mais c'est la beauté de la bourse aussi, c'est qu'aujourd'hui la bourse, je vous rappelle qu'en fait sortent les moins performants et ne rentrent que les plus performants. Donc quand on dit depuis 1928 la performance moyenne de la bourse est 10%, oui, mais c'est vrai que les moins performants on les sort, les plus performants rentrent à la place.
Donc comme dans un portefeuille.
Un petit biais statistique.
Dans un instant, la clôture, on va la vivre ensemble. D'abord, on entre à 17h34 dans la data room. Chaque chiffre que nos experts vont nous livrer, chaque chiffre vaut l'infini. Jean-François et François, êtes-vous prêts à tronçonner l'infini en data?
Prêt.
Alors on y va. C'est donc un morceau d'infini que vous allez nous livrer l'un et l'autre, mais en une minute chacun. On démarre avec vous, Jean-François, votre chiffre ce soir, 69,5%. C'est ça, Jean-François?
Oui, tout à fait, 69,5%, c'est la dette sur PIB prévue de l'Allemagne en 2027. C'est quand même intéressant parce que nous, on sera sans doute autour de 119% à ce moment-là l'année prochaine. Donc c'est très intéressant ce qui se passe en Allemagne, c'est-à-dire que comme ils ont que 69% de dette, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent, on le disait tout à l'heure, 55 milliards sur les infrastructures, 109 milliards sur l'armée. Et ce qui est très intéressant, c'est que malgré ces 69% de dette, qu'est-ce qu'ils font les Allemands? Ils introduisent de la capitalisation, ils resserrent les boulons sur les assureurs, sur les arrêts maladie, alors qu'ils en ont 30% moins que nous. Ils ont une retraite à 67 ans, je le disais, ils font de la capitalisation. Donc c'est hyper intéressant ce qui se passe en Allemagne. Ils sont peut-être lents, on peut un peu parfois se moquer d'eux, mais là ils sont en train d'avancer. Et pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens. Et quand vous regardez par exemple un pays comme la Grèce, en 2020, ils avaient 210% de dette sur PIB. Ils sont en train de passer cette année à 135%. Et donc on peut tout à fait aussi penser qu'on peut réduire sa dette tout en faisant de la croissance. L'Allemagne, ils nous montrent exactement ça. Ils sont en train de dépenser parce qu'ils n'ont pas de dette. Ce n'est pas parce qu'on a de la dette qu'on fait de la croissance.
Intéressant. Merci beaucoup. Cette belle data à vous, François Monnier, de nous livrer une data significative. 498,65 €. Qu'est-ce que c'est que ça?
Non, c'est pas moi, ça.
C'est pas vous?
Non.
Bah alors, je me suis trompé, j'ai pas
moi, c'était 81 millions de tonnes.
81 millions de tonnes, d'accord.
81 millions de tonnes, ouais. C'est ce qu'a rejeté dans l'atmosphère Amazon en 2025. C'est 1 million de tonnes équivalent CO2. C'est une croissance de, c'est une augmentation de 16%. On voit que Google a rejeté dans l'atmosphère l'équivalent de 19 millions de tonnes équivalent CO2. C'est une progression de l'ordre de 18%. Et tout ça pour dire que l'IA, c'est sympathique, mais ça consomme de l'énergie et ça pollue. Et donc, une des thématiques qu'on a quand même oubliées depuis l'arrivée de Trump, c'est quand même la thématique ESG, la thématique liée à l'environnement. Et ça, probablement, ce sera dans les mois à venir, ce sera à nouveau un sujet, comme ça l'a été il y a quelques années. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même qui est durable, et on le voit en tout cas avec le réchauffement climatique. Donc, faut pas abandonner cette thématique, parce que à un moment donné, si on peut optimiser l'énergie plutôt que de la consommer et de la gaspiller, ça a une vraie valeur. Et des acteurs comme General Electric qui participent à l'optimisation de la consommation d'énergie a un boulevard devant lui.
Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. François Monnier pour Investir, Jean-François Robin pour Natixis. Ça a été intéressant cette data, François. Je ne sais pas quel chiffre j'avais fait un mauvais copier-coller.
C'est pas grave.
Non, mais c'était un François Monnier, mais d'un de vos précédents passages, sans doute. Et puis mon mail me l'a affiché en premier. Ça, voilà.
C'est pas grave.
Voilà, c'est la vie. Dans un instant, c'est la clôture avec Antoine sur BFM Business. Puis on va refaire la séance et vous apporter un maximum d'idées d'investissement. BFM Bourse jusqu'à 18h. À tout de suite.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Avec Antoine. Bonsoir Antoine.
Oui, bonsoir Guillaume.
Comment termine-t-on aujourd'hui ?
Dans le rouge, moins 0,51%, 8 436 points. La Bourse de Paris qui résistait bien depuis le début de la journée, qui était plutôt bien orientée en matinée, puis qui a cédé parce que, voilà, on a quand même des allègements massifs encore une fois et beaucoup de volatilité autour de la tech asiatique ce matin et de la tech américaine cet après-midi. Moins 1,5% notamment pour le Nasdaq. On a l'Euronext Tech Leaders en baisse de 2,2%. L'Eurostoxx 50, lui, termine sur une baisse assez forte, hein, moins 1,22%. Encore une fois, du côté du CAC 40, on s'est rattrapé grâce aux valeurs plus traditionnelles. Le secteur des vins et spiritueux était bien entouré, hein, plus 5,5%, notamment pour Pernod Ricard à 65,88 €. Rémy Cointreau, leader du SBF 120, plus 5,6%, 45 €. Non, dépassé d'une tête par Ubisoft. Là, ça s'est passé au fixing. Hein. Le titre a rebondi d'un coup, plus 5,9% à 6,02, mais toujours très volatile. À la baisse, pas trop de surprise, tous les titres liés de près ou de loin à l'IA et au monde des semi-conducteurs. STMicroelectronics, moins 8%, 58,30 €, c'est la plus forte baisse du CAC. Soitec, plus forte baisse du SBF 120, ouais, moins 17%, 98,16 €. On repasse sous les 100 €, tiens. Et STMicro suit juste après. Puis on a Mersenne aussi, tiens, on en parle depuis la fin du premier semestre. Hein. Mersenne qui recule de 6,8% à 38,10 €. Phénomène que notait Alexandre Baradez d'IG ce matin, ça se retend sur les taux d'intérêt 10 ans.
Oui.
3,67 € sur le 10 ans français, 2,99 €, on est encore à la limite des 3% sur le 10 ans allemand. Et c'est plus sensible en Europe qu'aux États-Unis où là, bon, on a du 4,51 € sur le 10 ans américain, mais voilà, il faudra être attentif à cette tendance, cette petite tension là sur les taux européens.
André Toigny est avec nous, justement. Quel signal cette clôture finalement en baisse du CAC 40, moins 0,5, envoie-t-elle? Tous les marchés européens quasiment reculent ce soir. Et Wall Street aussi, le Nasdaq perd 1,5 € en ce moment, Andrea, le S&P moins 0,7. Est-ce que les marchés sont sur des niveaux techniques fragiles?
Non, on est un peu loin quand même des niveaux techniques fragiles, notamment sur le CAC. Après, ce qui se passe, c'est qu'on a encore une fois ce poids du secteur de la tech qui vient pénaliser les indices. Même si on a un poids faible dans le CAC, et ben, c'est vrai qu'on chute malgré tout par sympathie avec notamment les indices américains qui sont un peu plus dans le dur aujourd'hui. Mais on est loin quand même des signaux d'alerte. Hein. Sur le CAC, il y a un vrai niveau pivot à 8259. C'est un ancien niveau de résistance qui devient un niveau de support aujourd'hui. Et du coup, ce point pivot-là, au-dessus de ce niveau, on a une capacité à poursuivre. Alors là, on a cassé un support intermédiaire vers 8450, on a cassé ce niveau-là, donc maintenant on peut aller surveiller des niveaux tels que 8003 avant d'aller toucher les 8259 si on doit poursuivre sur cette consolidation. Mais sinon, on est quand même loin encore une fois de ces niveaux d'alerte et on peut encore viser tant qu'on est au-dessus de 8259. Déjà, on a tenté hier, on l'a comblé, hein, ce gap du 2 mars, et c'est de revenir sur ce gap du 2 mars, donc au-dessus des 8540 points à peu près, et aller viser ses plus hauts vers 8650. On est encore dans cette configuration-là où on peut se le permettre, mais il va falloir il va falloir trouver le carburant et en tout cas les arguments qui permettent d'atteindre ces niveaux.
Mais peut-être que Bertrand Lamiel va nous les apporter. On va tout de suite refaire la séance avec lui. Il va nous dire ce qu'il pense de positif, de négatif, des valeurs qui se sont distinguées ce soir et puis surtout ses idées pour la suite. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec donc Bertrand Lamiel pour Ports en Part Gestion. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
On est ravis de vous retrouver. Les valeurs qui se distinguent ce soir, d'abord la tech, c'est vrai, dans le sillage de Samsung, pas terrible, alors que la publication était bonne. ST Microelectronics perd 8%. On a aussi ASML, qui est un fournisseur de Samsung, en baisse à Amsterdam de 7,3%. Votre regard sur la dynamique tech après Samsung?
C'est une grosse performance depuis le début de l'année. Donc, on avait déjà eu un premier coup de semonce, c'était le 6 juin, où l'indice des semi-conducteurs américains, le Philadelphia Stocks, avait perdu 10% dans la journée, ce qu'il fait extrêmement rarement. Je crois qu'il l'a fait une ou deux fois sur 20 ans. Donc ça, c'est le premier coup de semonce. Voilà, on est sur les répliques. Vous l'avez dit, Samsung, c'était bon, mais comme toujours, vu les niveaux de valorisation, vu le parcours, il y a un niveau d'exigence des investisseurs qui est assez fort. Et puis surtout, les publications ne sont pas pour demain. Donc là, en fait, on a quasiment 3 semaines à traverser avant d'avoir les premières publications sur la tech. Donc, c'est un niveau d'incertitude qui monte d'un cran. Or, la volatilité a monté, mais c'est pas non plus très élevé, puisque je crois qu'on doit être à 17 ou 18. Donc, franchement, on n'est pas sur des volatilités de crise qui sont au-delà de 30. Mmh. Donc, c'est toujours impressionnant ces baisses dans la journée de 7 à 10 %. C'est à mettre en parallèle avec les performances qu'on a eues et c'est malheureusement le prix à payer pour détenir ces actifs si on prend les valeurs américaines et Micron, on a 248% depuis le début de l'année, Seagate, on a 215%. Donc forcément, il y a des volatilités qui sont attachées et qui font que quand ça se replie, ça fait mal et c'est beaucoup moins sympa que quand ça marche à la hausse.
Les autres valeurs qui se distinguent aujourd'hui, alors il y a des relèvements d'opinion, ce qui impacte souvent les valeurs dans ces phases un peu d'entre-deux sur les marchés. On sent qu'on est dans une zone de transition là sur les marchés financiers. Relèvement d'opinion par exemple aujourd'hui sur Legrand, Barclays passe à l'achat. Est-ce que vous aimez cette valeur Legrand qui recule quand même de 0,8% ce soir?
Oui, de toute façon, c'est quand même un exploit de monter. Et de toute façon, Legrand, elle est dans le mauvais secteur pour monter parce que globalement, quand la tech baisse, on s'aperçoit que toute la thématique qui arrive immédiatement derrière, qui est des valeurs qui contribuent à la fourniture d'énergie pour les data centers, sont relativement corrélées. Donc, Legrand en fait partie. La publie, c'est le 29 juillet, donc c'est pas demain. Et la dernière publication, c'était le 7 mai, c'était soldé par un -1,69 en journée, avec toujours déjà le même sujet pour Legrand, qui est une valeur un peu plus faible dans le giron des dossiers fourniture d'électricité, avec des croissances qui étaient vues comme trop faibles, des relèvements de marge un peu faibles. Et donc globalement, un dossier qui est passé de 164 à 134, ben, globalement qui a perdu 20% dans les 15 jours, 3 semaines qui ont suivi. Donc, sur le principe, fourniture d'énergie, oui, on sait qu'il y en aura besoin, mais Legrand n'était pas dans nos convictions, on est présent sur d'autres dossiers. Et il y en a qui sont intéressants, notamment, je vous en ai déjà parlé, c'est Nvent, N-V-E-N-T. C'est un dossier qui a son siège social en Irlande, mais qui est coté au Nasdaq, et du coup profite un peu plus du momentum américain sur le sujet, et c'est 55% depuis le début de l'année. Donc voilà le type de dossier. C'est pas acheté dans le timing du jour, puisque vous voyez bien qu'on est à -4 aujourd'hui sur Nvent. Il faut laisser un peu souffler, mais voilà, c'est un dossier à surveiller parce que ça pourrait être intéressant de revenir dessus.
Et c'est une idée pour nos auditeurs et téléspectateurs. Andrea Legrand, d'un point de vue purement technique, graphique, comment vous le sentez ce titre?
Graphiquement, on est un peu dans une zone de neutralité. On n'a pas de conviction très forte pour le moment d'un point de vue technique. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on se rapproche, attention, d'une moyenne mobile, la moyenne mobile de 100 jours, donc c'est important. Elle est située autour des 140, légèrement au-dessus de ce niveau, et on se rapproche du coup de cette moyenne mobile. Si on venait à la casser, ce serait un signal baissier. Ça pourrait nous faire glisser jusqu'à au moins 135 sur le titre. Et puis, on a une résistance, elle, à l'inverse, qui est située autour des 150. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a un ratio put-call qui est quand même très favorable au call. Donc, il y a beaucoup plus de calls qui sont achetés dans le marché. sujet. Mais à l'inverse, quand on regarde le risque reversal, on voit quand même que les investisseurs payent un premium pour les puts. Donc ça veut dire que pour les protections, on paye un premium. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la recherche de protection et qu'on est prêt à la payer assez cher. Donc du coup, c'est assez intéressant. Ça vient un peu contrebalancer cette présence de call qui est très très importante sur le titre. Et ça explique un peu aussi cette zone de neutralité sur laquelle on est, avec une conviction aujourd'hui, un directionnel qui est pas très très fort, même si sur le long terme, le directionnel reste positif et plutôt à l'achat.
Autre titre qui se distingue, toujours un relèvement d'opinion, Air France KLM ce soir gagne un peu plus de 2,5%. C'est JP Morgan qui se dit positif sur la publication à venir, Bertrand, d'Air France KLM.
Oui, bah ça reste compliqué. Hein. Donc globalement, l'aérien c'est un peu revenu en grâce parce qu'on avait la baisse du pétrole, donc il y a toujours cette corrélation inversée. On verra les chiffres du trafic pendant l'été. Nous, globalement, on n'a rien repéré de très intéressant et qui en fasse une thématique d'investissement. On a regardé forcément ce qui s'est passé sur EasyJet avec l'OPA qui est lancé. Se poser la question, voilà, est-ce qu'on peut faire des parallèles avec Air France? C'est compliqué puisque les business sont différents. Et puis bon, de toute façon, Air France, globalement, ça reste une valeur française avec le. Enfin, on sait que l'État surveille ça de très près. Donc, non, pas beaucoup d'intérêt sur ce dossier. Dans la dimension touriste, ce qui marche bien, et là, pour le coup, il y a un tiers groupé, et c'est toujours intéressant quand les dossiers avancent en patrouille, c'est tout ce qui est hôtel. Donc, on a un Meliá, par exemple, en Espagne, qui se comporte relativement bien. Et aux États-Unis, on a des dossiers comme Marriott, comme Hilton aussi, qui avancent plutôt pas mal. Donc, ouais. Côté tourisme, on irait plus chercher des groupes hôteliers des deux côtés de l'Atlantique.
Et puisque vous parlez de tourisme, Voyageurs du Monde, donc, qui se distingue à plus 22% ce soir, c'est l'annonce du jour, la sortie de cote annoncée de Voyageurs du Monde, sans doute au deuxième semestre. En fait, il fait l'objet d'une OPA, ce groupe, à 180 euros par action, une prime de 24%. Ce soir, le titre progresse presque au niveau de la prime proposée, plus 21%, on le disait en clôture. Le retrait de la cote de Voyageurs du Monde, c'est une valeur qui a beaucoup souffert. Quel bilan vous tirez et puis quelle opportunité pour ce groupe pour la suite?
Alors, qui a beaucoup souffert, ça a quand même fait x7 en 20 ans, donc il s'en sort bien. C'est un dossier de 652 millions d'euros, mais sur lequel il n'y a pas une liquidité énorme, notamment dû au fait que elle est détenue à 62% par les actionnaires d'origine. Donc voilà, ils décident de sortir. Après, malheureusement, c'est un peu ce qu'on a sur les valeurs françaises, mais c'est également le cas un peu partout en Europe. Hein. C'est que c'est les conséquences inattendues de MiFID 2. En fait, le suivi des dossiers en dessous du milliard est de moins en moins réalisé par les brokers. Donc là, il y avait seulement deux ou trois brokers qui la suivaient. Donc vous voyez, liquidité faible, plus assez peu de suivi. Ça explique aussi que le parcours soit pas forcément toujours en ligne avec le résultat opérationnel. Donc c'est toujours malheureux de voir des valeurs qui disparaissent de la cote. Le cote quasiment son prix de sortie, puisque là. Globalement, les minoritaires, je pense qu'ils sont plutôt bien récompensés. Je suis pas sûr que on puisse attendre une contre-offre. C'est lancé par les dirigeants actuels. Donc, dans un timing qui est relativement court, ce qui explique la différence de traitement par rapport avec Excel qu'on commentait hier, c'est que là, il y a un timing sur Excel, il y a un timing plus long. Il y a encore des discussions qui peuvent faire que la discussion échoue. Donc là, sur Voyageurs du Monde, on rejoint quasiment le cours de l'OPA. Là où il y a un gap un peu plus important avec Excel.
Oui, et quand vous regardez justement l'ensemble de ces offres qu'on voit sur plein de mid-cap françaises, vous vous dites quoi? Que ce sont les valeurs les plus attractives qui font l'objet d'offres et donc de retrait de la cote à venir, et il ne restera à la fin que les moins attractives, ou on n'est pas obligé de voir le verre toujours à moitié vide sur ça? Comment vous vous positionnez, Bertrand?
Non, mais c'est des cas différents. Excel, il y avait un sujet de refinancement. C'est une valeur qui est en plein boom, en pleine croissance. Mais il y a un sujet de refinancement relativement conséquent qui fait que la famille Gourget décide que il est temps de s'arrimer à un groupe pour pouvoir continuer à faire de la croissance et passer ce cap de financement. Là, Voyageurs du Monde, pour le coup, c'est un sujet différent. Le groupe s'estime mal valorisé en bourse, et c'est pas complètement faux. Pour des sujets de liquidité faible et de pas être dans les radars, quoi. Souvent, les dossiers vont apparaître dans les radars de plus grosses gestions. Si on n'est pas small capper, il y a très peu de gestions qui s'aventurent en dessous de 1 milliard ou 5 milliards de capitalisation. Donc, ils décident de sortir. C'est détenu majoritairement, comme je le disais, à 62% par le, le groupe fondateur. C'est des histoires différentes. Donc non, heureusement, il reste des beaux groupes à la côte. On espère qu'il y en a d'autres qui vont rentrer. Il y a des initiatives de place qui sont faites justement du type IPO Ready ou les étincelles pour justement trouver des sociétés qui, sur le papier, ont tout intérêt à rentrer en bourse pour trouver des capitaux et qui ont atteint la taille suffisante et dont on espère qu'elles vont après franchir le seuil de la bourse. Donc on a une cote parisienne qui est très active, même si ça transparaît pas dans les chiffres d'introduction en bourse. Il y a beaucoup d'initiatives de place pour soutenir ce monde des mid-cap qui a besoin, après avoir fait plusieurs tours avec des acteurs du private equity, de rentrer en bourse pour pouvoir prolonger leur aventure de croissance.
Merci beaucoup Bertrand Lamiel avec nous, ce décryptage ce soir. Et donc avant sa sortie de la cote, le titre Voyageurs du Monde en hausse de un peu plus de 22%, 21,9% ce soir. Bonne soirée Bertrand, chez vos équipes, dans vos bureaux, à Port-en-Part, enfin peut-être aussi chez vous, on vous le souhaite, ou en balade. Le CAC 40, moins 0,5% ce soir en clôture, 8436 points. Nouveau débrief de cette séance dans un instant, ce sera avec Antoine dans le 18-19 de BFM Business. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.